De grosses transformations secouent le monde. Crise sanitaire mondiale, digitalisation de notre société, montée en puissance de l'intelligence artificielle, révision des accords de libre-échange, fluctuations boursières, des transformations qui ont un impact direct sur votre quotidien. Torontois et Torontoises, pour vous permettre de mieux comprendre ces mouvances, la Radio Choc FM 105.1 vous propose un coup de phare quotidien sur l'actualité avec Tirne Soumaré. Écoutez Plein Feu Grand Toronto du lundi au vendredi de 8h à 9h sur Choc FM 105.1.
Bonjour, vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1 au micro de Tirne Soumaré sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Proposer différentes actions pour sensibiliser les personnes vivant avec le diabète et les professionnels de la santé tout au long du mois de novembre, qui est reconnu comme le mois de la sensibilisation. Le 14 novembre a été retenu comme journée mondiale du diabète. Cette journée mondiale fut créée en 1991. Depuis, la journée mondiale du diabète n'a cessé de prendre de l'ampleur et est finalement devenue une journée internationale créée par les Nations Unies. Avec nous, Mme Tommy Cadeux, infirmière, nous parle de ce mois et des activités autour. Bonjour, vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1 au micro de Tirne Soumaré. Nous avons le plaisir de nous entretenir avec Mme Cadeux, infirmière, avec qui nous allons parler de ce mois de novembre reconnu comme le mois du diabète. Bonjour Mme Cadeux, pouvez-vous vous présenter aux éditeurs de Choc FM s'il vous plaît?
Oui, effectivement, je suis dans le fond infirmière clinicienne. Je travaille auprès de la clientèle atteinte de diabète, donc que ce soit du diabète de type 1, diabète de type 2 ou les autres diabètes que nous retrouvons. Je travaille avec cette clientèle depuis maintenant près de 7 ans. Je fais de la formation auprès des patients là, pour les aider à premièrement accepter la maladie et être capable de vivre au quotidien avec cette maladie là, sans essayer dans le fond d'éviter là, le risque de complications. Donc les aider dans les changements d'habitude de vie, les aider dans la prise de médication, que ce soit adéquatement avec une bonne technique, mais aussi avec toute la gestion que le diabète peut amener de comme côté de lourdeur au niveau de la maladie, le risque là, de dépression chez mes patients. Donc, on essaie de toucher un petit peu toutes les sphères du patient là, pour que le patient puisse essayer d'avoir une qualité de vie puis une espérance de vie là, le plus normale possible.
Le 14 novembre, journée mondiale de la sensibilisation du diabète, mais en général, le novembre, mois de novembre, qui est un mois de sensibilisation autour de cette maladie, le diabète, quels sont les travaux que vous avez eu à faire pour pouvoir faire connaître cette maladie qui est déjà connue, mais quelles sont les sensibilisations que vous faites autour de cette maladie pour que les personnes soient assez informées?
Bien, je pense que le travail est fait de façon nationale, que ce soit pour chacune des provinces de façon distincte avec les organismes locaux, mais au niveau vraiment national, donc au niveau du Canada, on a Diabète Canada qui fait beaucoup de promotion. On voit même de façon mondiale énormément de formations. Et comme le mois de novembre est vraiment le mois de la sensibilisation du diabète, le but est de sensibiliser les gens qui sont atteints, mais surtout ceux qui sont beaucoup plus à risque de le devenir. Donc, on sait que parfois, si on a des antécédents familiaux, qu'on a un peu de surplus de poids, une obésité ou on a d'autres maladies qui peuvent nous aider là, ou engendrer le risque supplémentaire de complications qui va nous amener peut-être vers un diabète de type 2. Donc, ce qui est important, c'est de sensibiliser les gens. On le sait qu'il y a déjà plus de 3 millions de personnes au Canada qui sont atteintes de diabète, mais on en a environ 11 millions si on prend au total là, les statistiques qui comprennent et les gens atteints, mais également les gens qui font du pré-diabète. Donc, les gens qu'il faut sensibiliser. Puis, heureusement, le mois du diabète nous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité, que ce soit à la télévision, dans les journaux, à la radio, dans le but de dire aux gens, ben c'est une maladie. C'est une maladie qui est chronique, donc c'est une maladie avec laquelle on est aux prises pour le reste de nos jours. Et c'est important d'essayer d'éviter le plus possible de le développer en adoptant de saines habitudes de vie, que ce soit une alimentation qui est saine et équilibrée, de l'activité physique, essayer de diminuer le surplus de poids, qui est un risque très important. Donc, je pense que le mois de novembre, et pour la part, nous, les infirmières, je pense que notre rôle, puis ça, c'est pas juste au mois de novembre parce que c'est le mois du diabète, mais tout au long de l'année, d'essayer d'aider les gens à éviter de développer cette maladie-là en changeant, bien sûr, les habitudes de vie, mais surtout en les sensibilisant auprès de la maladie, là, qui est une maladie qui est quand même avec un grand impact là, sur un risque de complications au niveau de à peu près tous les organes de notre corps, là, que ce soit les yeux, le cœur, les reins, les petits vaisseaux, les gros vaisseaux. Donc, c'est important là, de sensibiliser les gens pour essayer d'éviter. Fait qu'on essaie via toutes les plateformes nécessaires là, d'essayer d'accrocher les gens à cette maladie qui a un impact sur toutes les sphères de la vie des gens là, qui en sont atteints.
Pour rester toujours dans ce cadre du mois de novembre, mois de sensibilisation du diabète, on parle de sensibilisation, mais quand on parle de sensibilisation, ça veut dire que les gens ne prennent pas trop conscience de cette maladie. Et pourquoi cela?
Bien, je vous dirais que, premièrement, quand on développe le diabète, à part là, que c'est un diabète de type 1 dans lequel on a une nécessité d'intervention rapide parce que sinon les patients peuvent en mourir, le diabète de type 2 est une maladie qui s'installe beaucoup plus lentement. Donc, comme c'est une maladie qui s'installe lentement, souvent les symptômes peuvent apparaître seulement des années après. Fait que malheureusement, c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on n'a pas le risque de complications. Fait que souvent, les gens vont arriver à l'urgence avec un infarctus, vont arriver avec un AVC, ils vont arriver avec d'autres complications. Puis c'est là qu'on va voir que le diabète est installé depuis un bon bout de temps. Et malheureusement, comme il n'y avait pas de symptômes associés à la maladie, bien, les gens ne le savaient pas. Fait que je pense que c'est important d'être sensibilisé, de connaître les facteurs de risque qui sont présents, surtout si on en a dans notre famille ou si on a un peu d'excès de poids. Donc, ce sont des facteurs de risque qui sont très importants. Les patients qui prennent la médication, par exemple pour une dépression ou pour d'autres maladies, pour d'autres détresses là, psychologiques, on sait que les gens sont beaucoup plus à risque. Donc, il faut sensibiliser les gens aux facteurs de risque importants. Et malheureusement, c'est une maladie, on le sait, c'est là, les gens, on a toujours l'impression que les maladies vont aller chez les autres, hein, que nous, on est protégés. Mais non, tout le monde est à risque de développer des maladies. Donc, c'est important d'être sensibilisé, de reconnaître, pour moi, quels sont mes risques, quels sont mes facteurs de risque, puis d'en parler avec notre médecin de famille ou avec notre infirmière qui nous suit au niveau des cliniques, pour voir est-ce que je suis à risque, est-ce que je peux faire quelque chose pour les modifier dans le but, bien sûr, d'éviter le plus possible d'arriver de cette maladie.
Une maladie que les gens parlent de façon, pas du tout conscient de la gravité de cette maladie. Moi, ma question va être, est-ce qu'elle est grave et est-ce qu'on meurt du diabète?
Mais je vous dirais que souvent, les gens vont avoir l'impression qu'il y a différents types de diabète. Il y a le petit diabète, le moyen diabète, le grand diabète. Parce qu'on prend de l'insuline, les gens ont l'impression d'être en phase terminale du diabète, alors que c'est loin d'être le cas. Je pense que le diabète est une maladie. Il n'y a pas de petit, de moyen ou de grand diabète. Donc, le diabète est une maladie chronique importante qui cause des dommages très importants au niveau du cœur, des yeux, des reins. Je vous l'ai mentionné un petit peu, ça fait le tour du corps en entier. Donc, c'est une maladie qui peut apporter des complications qui vont nous être fatales. On ne meurt pas du diabète, on va mourir des complications du diabète. Donc, c'est important de le prendre en main. Mais effectivement, les gens vont un peu diminuer le risque en disant ben c'est juste trop de sucre dans mon corps, j'ai juste arrêté d'en manger. Ben non, on peut pas juste arrêter d'en manger, on en a besoin pour notre survie. Donc, il faut être capable de bien comprendre l'enjeu du diabète parce que c'est une maladie qui a des conséquences très graves si on le laisse aller et qu'on s'en occupe pas malheureusement.
On parle de cette gravité, mais il y a une chose quand même qui est associée au diabète, c'est le changement de la personne, la morphologie, le surpoids. Est-ce que tout cela joue avec cette maladie?
Oui, effectivement, le surpoids, dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand on a un excès de gras, souvent on va le dire que c'est un gras viscéral, donc un gras au niveau de l'abdomen, à l'intérieur des organes, ce gras-là empêche les organes de bien fonctionner, amène un processus d'inflammation. Donc, l'inflammation empêche le corps de bien fonctionner. Si je peux vous le vulgariser un petit peu, là, c'est quand l'insuline, qui est le moyen de transport du sucre pour, dans le fond, s'en aller dans les cellules pour être capable de nous donner de l'énergie, mais quand on a un surplus de poids, cette insuline-là, elle n'est pas capable de se rendre de façon adéquate et d'être capable de transporter adéquatement l'insuline pour donner de l'énergie. Donc, on a besoin d'une plus grande quantité d'insuline, que ce soit en injection ou que ce soit avec l'aide de la médication, pour être capable d'y parvenir. Fait qu'effectivement, l'excès de poids amène une surcharge de travail, si je peux dire ainsi, à notre corps. Donc, il y a besoin de travailler plus fort, mais l'excès de poids amène aussi tout un processus inflammatoire, amène des dysfonctionnements à divers niveaux qui vont augmenter le risque de diabète, mais surtout si on est atteint de diabète, avoir beaucoup plus de difficultés parce qu'on est plus résistant à l'insuline. Donc, on a besoin souvent d'un traitement qui est supplémentaire ou on a besoin d'un traitement qui est plus agressif là, pour être capable de bien contrôler notre diabète.
Quand on parle de cela, la question que je m'en vais vous poser, qui sont les personnes à risque pour atteindre cette maladie, le diabète?
Bien, je vous dirais que les gens passés de 40 ans, premièrement, là, si on parle du diabète de type 2, les gens qui ont des antécédents familiaux, malheureusement, quand on a un parent ou deux parents qui sont atteints, on a beaucoup plus de risques de le développer. C'est sûr que si on a un excès de poids ou une obésité, comme je vous disais, ce risque-là est encore plus important. Pour les gens qui sont atteints de maladies mentales, donc qui prennent de la médication, qui sont beaucoup plus ce qu'on appelle obésogènes, là, souvent c'est des médicaments qui vont faire prendre énormément de poids, vont augmenter le risque également de diabète. Donc, il y a plusieurs facteurs de risque. C'est sûr que la sédentarité, le fait de ne pas bouger, le fait d'avoir des mauvaises habitudes de vie vont engendrer souvent un peu d'excès de poids qui peut nous amener également à une obésité. Fait que ce sont tous des facteurs de risque interreliés. On parle toujours du tabac, on parle des mauvaises habitudes de vie, mais tout ça mixé ensemble va augmenter le risque de diabète de type 2. Je pense qu'il faut retenir, c'est que passé 40 ans, je pense que si on n'a pas déjà pris notre santé en main, je pense que c'est le moment où le drapeau doit se lever et dire, bon, bien là, j'avance en âge, donc c'est important les facteurs de risque pour plusieurs maladies, que ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires ou autres. Je pense qu'il faut être sensibilisé au fait d'être plus à risque de développer des maladies pour qu'on puisse prendre en charge de nos habitudes de vie pour que ce soit plus sain et d'un, on va se sentir mieux psychologiquement, mieux physiquement. Fait que je pense que c'est un élément là, qui peut avoir une vie de qualité dans le fond chez nos jeunes.
On parle là aussi dans cette interview de façon de faire. Quelles sont les pratiques qu'il faut adapter? Il faut changer sa façon de manger, faire plus de sport peut-être, c'est des questions que je pose, ou boire beaucoup d'eau. Quelles sont les pratiques que la personne doit adapter pour être à moins risque d'attraper cette maladie?
Ben, je pense que ça dépend toujours des facteurs de risque qui sont devant nous. Si on a, bien sûr, des antécédents familiaux, malheureusement, ce sont des facteurs qu'on ne peut pas modifier. Fait que les facteurs sont là, on doit vivre avec. Par contre, quand on parle des habitudes de vie ou d'avoir une vie saine et équilibrée, c'est bien sûr d'avoir une alimentation qui est le plus sain possible, dans le sens où ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se permettre une gâterie une fois de temps en temps, d'aller manger un repas plus copieux une fois à l'occasion. Je pense que ce qui est important, c'est de retourner à la source, c'est d'éviter les aliments qui sont toujours préparés, la nourriture qui est très salée, la nourriture qui est remplie de gras, remplie de sel, qui vont nous amener souvent à développer un peu d'excès de poids. Donc, ce qui est un des facteurs de risque importants. Fait, d'essayer de revenir à la base de l'alimentation. Hein, quand on recule là, plusieurs années, on avait le jardin en arrière de nous, on avait notre ferme avec nos cochons, notre bœuf. Donc, la nourriture était faite par la nourriture qui était fraîche, la nourriture qu'on entretenait nous-mêmes avec notre jardin. Malheureusement, maintenant, avec le peu de temps qu'on a, avec les vies accélérées qu'on a de performance et de tout est hyper contrôlé dans notre horaire de vie. On court tout le temps, les enfants qui ont du sport, les enfants qui ont école, les horaires, le trafic, tout ce qu'on a à gérer autour. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer, de reprendre le contrôle sur ses habitudes, puis de s'accorder comme individu du temps de qualité. Du temps de qualité, ça veut dire, ben, je prends le temps de me mettre en priorité, je prends le temps de cuisiner des nouvelles recettes, des recettes qui sont saines. On en a maintenant des gratuites sur Internet, là. On a plein de belles recettes qu'on peut faire. Donc, à réapprendre à s'offrir du temps de qualité, de prendre le temps d'aller marcher en famille, de prendre le temps de faire de la méditation, de la relaxation. Je pense que le côté de stress aussi qui est omniprésent, ce qui fait en sorte que parfois, quand on est stressé, on a tendance à manger plus rapidement, sauter des repas, manger moins bien, aller chercher un peu de réconfort psychologique en mangeant plus de gras, plus de sucre. Donc, je pense que c'est important de s'accorder du temps. Puis avec l'arrivée de la COVID cette année, il y a beaucoup de gens qui ont eu à rester à la maison. Je sais que ça a été vu de façon négative, mais moi, j'ai plusieurs patients pour lesquels on a travaillé ensemble pour rendre ce temps-là une occasion de s'offrir du temps de qualité. Fait que je pense qu'il faut prendre chaque petite opportunité puis de s'arrêter puis se dire, OK, ben je vais regarder, je peux aller rencontrer une nutritionniste diététiste qui va m'aider à voir dans mon alimentation, qu'est-ce que je pourrais modifier? Souvent, on n'a pas besoin d'avoir un suivi qui est très à long terme, là. Une ou deux rencontres pour aller regarder les points sensibles, d'aller rencontrer un kinésiologue qui est un intervenant de la santé spécialisé dans l'activité physique, pas un entraîneur de gym, mais vraiment quelqu'un qui est spécialisé, qui va regarder toutes nos maladies ou les facteurs de risque qu'on a, qui va dire, regardez, on va regarder ensemble comment je pourrais, avec ce que vous avez envie de faire, être capable de bouger de façon quotidienne. Donc, un petit peu à tous les jours, pour faire en sorte que, et d'un, on diminue le niveau de tension, donc le niveau de stress, qu'on ait un meilleur état psychologique, qu'on soit capable de dormir de façon plus adéquate. Donc, ce sont plein de facteurs qui font en sorte que si on prend le temps d'avoir une qualité de vie plus zen et plus saine, on peut diminuer le facteur de risque pour le diabète, mais pour d'autres complications ou d'autres maladies qui ont les mêmes facteurs de risque.
Vous avez dit un peu plus tôt que, en début d'interview qu'on a à peu près plus de 3 millions de personnes et un peu plus de 11 millions dans le monde qui sont atteints du diabète. Est-ce des chiffres assez exacts ou c'est simplement une prévision?
Pas du tout. Puis c'est pas dans le monde, c'est au Canada. Donc, si vous allez sur le site de Diabète Canada, Diabetes Canada, là, on voit les statistiques les plus récentes. Puis dans les statistiques les plus récentes qui sont sorties, c'est ceux qui sont sortis en début 2020. Et on voit là, qu'on a, je pense que c'est 3 700 000 personnes atteintes de diabète de type 1 et diabète de type 2. On sait que pour le diabète de type 2, c'est à peu près 90 % des cas. Et on sait que si on combine les diabètes de type 1, les diabètes de type 2 et les patients qui sont non diagnostiqués, parce qu'il y en a qui n'ont pas de suivi médical, et les patients qui ont du pré-diabète, ensemble, on a plus de 11 millions de personnes au Canada. Donc, c'est pas mondial, parce que mondial, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est vraiment au niveau du Canada. C'est des statistiques qu'on retrouve sur le site de Diabète Canada. Donc, j'ose croire que ce sont des statistiques qui sont vraies, puisque sont faites là, avec l'association là, du gouvernement de Statistique Canada.
Est-ce une maladie héréditaire? Parce que souvent, on entend, vous l'avez un peu dit plus tôt, si vous êtes au-delà de 40 ans et que vous avez peut-être un de vos parents ou deux de vos parents qui sont à la base diabétique, vous êtes censé ou vous êtes une personne à risque de l'avoir?
On est beaucoup plus à risque si on a un parent qui est atteint de diabète et encore plus à risque si on a deux patients qui sont atteints. Donc, ce sont des facteurs pour lesquels, malheureusement, on n'a aucune incidence, donc aucun impact parce qu'on peut pas changer la génétique que nous avons. Par contre, on peut diminuer ce facteur de risque-là en optant, bien sûr, pour des saines habitudes de vie, là, comme on a parlé un peu plus tôt, l'alimentation, l'activité physique, essayer de diminuer le stress. Mais il y a des parties sur lesquelles, malheureusement, on ne peut pas intervenir. Puis la génétique, malheureusement, est encore un facteur non modifiable.
La COVID bloque tout le monde au niveau de leur maison. Est-ce que ça aussi pourrait favoriser ce diabète?
Oui, on voit beaucoup là, l'arrivée des gens, dans le fond, le confinement des gens à la maison a augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup le niveau de stress chez les gens. Ça, je vous dirais que c'est le facteur numéro un. Il y a plusieurs personnes qui, quand on vit un stress intense ou on a des difficultés d'adaptation, vont engendrer des changements au niveau des habitudes de vie. Donc, la surconsommation d'aliments qui vont apporter un état de satisfaction pour diminuer un peu ce niveau de stress-là. Je vous en parlais un peu plus tôt, là, tout ce qui est le gras, le sucre, dans le fond, les aliments qui sont pas recommandés là, pour une gestion des habitudes de vie saine. Malheureusement, c'est souvent ce qu'on a besoin pour diminuer l'état d'urgence qui est dans notre cerveau quand on est en état de stress. Mais je pense que le fait d'arriver en confinement à la maison a créé divers problèmes. Le premier, c'est comme les gens ne vont pas nécessairement au travail à l'extérieur, mais qui travaillent de la maison, ils n'ont plus nécessairement de temps de trafic ou de marcher dans le métro, marcher pour aller prendre l'autobus ou se stationner loin dans le stationnement, marcher, prendre les escaliers pour se rendre au travail. Donc, on se lève le matin, on s'assoit devant notre ordinateur. Puis là, comme on a plus de temps, les gens travaillent davantage. Donc, les gens ont augmenté le niveau de sédentarité. Donc, on reste beaucoup plus assis souvent dans notre journée. Les gens se lèvent, vont à la salle de bain. Les gens se lèvent, vont chercher un verre d'eau. Les gens se lèvent, vont au frigo, à l'armoire. Donc, la consommation d'aliments est beaucoup plus accessible au travail. On a une pause le matin, parfois une pause l'après-midi. On a une dîner qui est 30 minutes, une heure. Souvent, on a pas quelque chose à faire en même temps. Donc, ça l'a augmenté un peu. La partie des patients où ils bougeaient un peu plus. Malheureusement, le fait d'être à la maison, moi, j'ai vu beaucoup de mes patients même pas arrêter pour prendre un dîner. Puis là, ils arrivent en fin de journée où ils sont complètement affamés. Puis là, on mange tout ce qui nous tombe sous la main puis on grignote pendant qu'on prépare notre repas. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser les gens à ça parce qu'on a vu beaucoup le diabète chez nos patients être débalancé. Les patients ont pris un peu plus de poids, les patients sont un peu plus sédentaires et on a vu une autre petite partie de nos patients qui, eux, ont plutôt pris, moi, je vais m'accorder le temps où je suis dans le trafic en temps normal pour faire de l'activité physique, pour me préparer un souper qui est sain. Donc, il faut aider les gens comme professionnels de la santé à changer l'optique du « Ah, ben là, j'ai plus de temps, je vais travailler davantage, je vais me sauver du temps pour plus tard. » Malheureusement, la surcharge de travail, elle diminue jamais. Plus on en fait, plus on en a à faire. Fait que je pense que c'est important parce que ça augmente le risque de diabète, puis ça augmente le risque là, d'un diabète qui est débalancé. Puis malheureusement, on est plus sédentaire puis qu'on mange peut-être plus que la quantité qu'on devrait manger selon les besoins que l'on a réellement.
Madame Cadieux, merci.
Un immense plaisir. Merci à vous pour cette opportunité.
C'est un plaisir de vous avoir eu sur les ondes de Chaque FM 105 ans. Pour rappel, nous étions avec Madame Tammy Kadieu, qui est infirmière, et dans ce mois du novembre, qui est le mois de la sensibilisation du diabète. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir eu sur les ondes de Chaque FM 105 ans.
C'est un plaisir. Au revoir.
À présent, la suite des programmes sur la 105 ans.
Cette série originale de Choc FM 105.1 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM 105.1 sur Facebook.